Ici Paris, Radiodiffusion française présente
La Sorbonne et les étudiants étrangers.
Je m'appelle Bachot Étienne.
Oui.
Je viens de Cotonou. Comme moi, je suis un nègre et que je viens au pays des Blancs, mes parents qui sont incultes, nous disons incultes, qui ne sont pas, qui sont analphabètes, quoi. Ils ne savent pas trop si je ferai l'objet d'un accueil fraternel ici. Moi, à ce point de vue, je ne craignais rien.
D'autant que la Sorbonne aime à se situer toujours dans le sillage de l'exemplaire collège des nations du Moyen-Âge, qui, dirait-on dans le langage d'aujourd'hui, recrutait déjà à l'international. Mais le rayonnement du quartier latin a varié selon les époques. C'est peut-être dans les années 50-70 que la présence des étudiants de l'ancien domaine colonial y fut la plus visible. On parlait alors de Paris comme d'une capitale politique du tiers-monde en effervescence. Ce n'était pourtant pas vers ces pays que la stratégie de l'université s'était d'abord tournée. Il y a un siècle, et un peu plus déjà, elle se satisfaisait d'abord de recruter des hispanophones, des anglophones et au premier chef, des slaves. Aujourd'hui, si les pays francophones ne sont évidemment pas négligés, l'accent est souvent mis sur les grandes puissances d'Asie, dans l'enceinte élargie de la cité universitaire, qui avec la Sorbonne est l'autre grand signal parisien émettant vers le vaste monde. On prépare une extension de la Maison de l'Inde, la création de la Maison de la Chine et une maison de la Corée du Sud. À force de s'entendre répéter les impératifs de la concurrence internationale, les Français sont devenus familiers des conséquences qu'en tirent les universités. Européanisation des diplômes, concentration pour atteindre la taille paraît-il nécessaire, usage de plus en plus courant de l'anglais, etc. En revanche, l'histoire de leur politique en direction du vaste monde est beaucoup moins connue. Pourtant, les premiers dispositifs organisés, volontaristes même, remontent à la fin du 19e siècle, comme d'ailleurs le premier classement international des universités, ce qui est rarement dit.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Guillaume Tronchet, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur d'un livre sur la Babel étudiante, la cité universitaire, dont on reparlera et puis on attend... un livre sur les étudiants étrangers, donc votre éditeur l'aura demain, 15 septembre.
Voilà, je l'espère aussi.
Oui. Mais quand même, il y a une difficulté, c'est que le 16 septembre, samedi après-midi, vous prononcez une conférence dans un cycle destiné au grand public. Ce sont les journées du patrimoine et la Sorbonne est ouverte. C'est devenu très rare maintenant de pouvoir entrer à la Sorbonne librement.
Alors, c'est devenu extrêmement rare, effectivement, puisque la Sorbonne est rarement ouverte au grand public pour toute une série de raisons. Et c'est l'occasion, justement, ces journées du patrimoine, de découvrir le patrimoine de la Sorbonne, ses salles de cours, ces amphithéâtres, y compris des salles assez prestigieuses qui ne sont pas toujours non plus accessibles
aux étudiants. Alors, ce cycle de conférences organisé par monsieur le recteur chancelier des universités, c'est salle Louis Liard. Donc, il y a la cour, il y a la chapelle, la basilique républicaine qui entoure la chapelle. Vous allez tout droit et c'est à droite. Et c'est une des belles salles de la Sorbonne reconstruite autour de 1889, premier centenaire de la Révolution française. Et puis il y a des amphithéâtres, si vous pouvez, qui sont aussi extraordinaires à voir, pour leurs fresques notamment.
Tout à fait, c'est une Sorbonne qui, quand elle a été reconstruite donc par l'architecte Henri-Paul Nénot autour de 1889, et dont les inaugurations successives, puisqu'il y a eu plusieurs moments d'inauguration ont lieu à partir de l'Expo universelle de 1889, avait pour objectif de s'imposer au regard des visiteurs, notamment étrangers, de magnifier l'université française. Et donc il y a toute une série à la fois d'éléments architecturaux, mais aussi donc de fresques.
Allez, allécher l'auditeur qui va venir au site de conférence de samedi après-midi sur l'histoire de la Sorbonne avec des noms de fresques.
Les fameuses allégories de Puvy de Chavannes, Abélard enseignant, Pascal et Descartes discutant, Ambroise Paré au siège de Metz, etc., qui sont des fresques.
Et la Grèce antique.
Et la Grèce antique.
Se dévoilant devant l'archéologie.
Tout à fait.
Et tout le monde restant habillé.
Effectivement. Et l'objectif étant aussi de créer à travers ces fresques une sorte de réputation d'antériorité de la Sorbonne dans la concurrence universitaire internationale, pour bien montrer au monde entier que l'une des premières universités au monde, c'est la Sorbonne.
Le témoignage que voici concerne ces années-là. Il est d'Albert Millot. C'est un agrégé d'histoire qui a enseigné un moment à Louis le Grand et qui parle très bien du quartier latin et de ses plaisirs. À l'époque, on y allait en transport hippomobile. Et puis, il y avait le grand maître de l'histoire de l'époque, Ernest Lavis.
Le maître, c'était Lavis. Il nous écoutait avec bienveillance, en nous regardant avec ses yeux à la fois malins et condescendants. Il savait ce qu'étaient les jeunes gens. Notre vie pratique, notre vie quotidienne, l'édification de notre avenir, l'intéressait tout autant que nos préoccupations de chercheurs, d'étudiants, etc. Moi, je veux dire sa générosité d'esprit et sa protection éclairée.
De la Méditerranée sont venus des Phéniciens, des Carthaginois, des Grecs, des Latins, plus tard des Arabes. La Bretagne insulaire a envoyé ses Bretons dans notre Armorique et la Scandinavie ses Normands à l'embouchure de la Seine. Ainsi, la France se trouve être comme la synthèse ethnographique de l'Europe. La nation française est celle qui contient peut-être la plus grande somme d'humanité.
Peut-être la plus grande somme d'humanité. Alors, c'est un texte de Lavis tout à fait dans le style du discours qu'il va prononcer à l'inauguration de la nouvelle Sorbonne en 1889, pendant que les étudiants étrangers abaissent leur bannière au passage du président de la République.
Oui, effectivement, on est tout à fait dans le raisonnement des élites de la Troisième République pour qui la nation est d'avant tout un groupe politique et qui est construit par toute une série de membres qui, quelle que soit leur origine géographique, font destinée commune et qui s'opposent en cela d'ailleurs à la nation dite allemande qui se base d'abord sur des considérations biologiques ou raciales. Et dans cet esprit-là, des gens comme Lavis, comme Fustel de Coulanges, comme Renan, pensent qu'il faut faire appel à l'étranger pour renforcer la nation française et notamment faire appel aux étudiants étrangers qui sont présents en nombre justement lors de cette inauguration du Grand Amphithéâtre en 1889.
Mais vous parlez de l'Allemagne. Alors, le premier classement des universités a été dressé par les Allemands qui voulaient prouver qu'il y avait plus d'étudiants à Berlin qu'à la Sorbonne.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, il y a une grande compétition déjà qui se livre au niveau des universités. Et l'université qui attire tous les regards dans le monde, c'est les universités allemandes. C'est celle qui attire les Américains, celle qui attire aussi déjà les Français. Et donc, il y a un premier classement qui est publié fin 19e siècle, année 1890, qui se base sur des effectifs d'étudiants. On classe les universités par le nombre d'étudiants, l'objectif étant de savoir qui va figurer en tête de ce classement. Et donc on a deux universités qui se disputent la première place en nombre d'effectifs, c'est Paris et Berlin.
Alors qu'est-ce qu'on met au point comme dispositif pour attirer du monde à Paris ?
Alors justement, puisque l'objectif c'est de renforcer ses effectifs pour être en tête du classement, mais pas que, aussi pour faire rayonner la culture et la science française dans le monde, on va mettre en place toute une série de dispositifs que sont des cours de langue pour attirer des étudiants étrangers et leur apprendre le français. On va mettre aussi en place des services d'accueil et de logement pour pouvoir les aiguiller dans la capitale qui recèle pas beaucoup de logements pour les étudiants. Et puis c'est là aussi qu'on va être créés les premiers services qu'on dirait aujourd'hui de communication, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais qui sont des bureaux de renseignement qui vont envoyer des affiches un peu dans le monde entier pour renseigner sur la Sorbonne, pour dire regardez quel type de cours on peut trouver à la Sorbonne. C'est ce type d'initiative qui se dessine au début du XXe siècle.
Et puis on enseigne sans débander, hein, l'été aussi.
Et puis en été effectivement aussi sont créées les premières écoles d'été, alors on appelle ça à l'époque les cours de vacances pour étudiants étrangers. Les premiers sont ceux de l'Université de Grenoble et de l'Alliance Française, mais Paris rattrape vite son retard en la matière au point de devenir l'un des cours de vacances pour étrangers les plus fréquentés en France.
Et les cours de vacances, ça permet de tester de nouvelles méthodes pédagogiques.
Effectivement, ce sont des cours qui sont aussi faits, qui permettent à certaines disciplines comme la phonétique, par exemple expérimentale, de tester des nouvelles façons d'enseigner.
Alors, une étudiante qui ne dételle jamais. Elle est polonaise, vous avez deviné que c'est évidemment Marie Curie. Elle est munie d'une bourse. Nous sommes ici, Théâtre de la Jeunesse, Claude Santelli, dans un amphithéâtre. Le cours du professeur est spectaculaire. Et puis aussi, l'évanouissement de Marie Curie, qui n'arrête jamais de travailler et s'impose toutes sortes de privations.
Je me suis inscrite à la Sorbonne en 1892. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile.
Imaginons un monde sans soleil, un atome sans noyau. Attendez, je prends le soleil, je le lance, et ces satellites, privés de leur noyau attractif, se repoussent les uns les autres, et s'écrase dans une déflagration cosmique épouvantable.
C'est une parente à vous, une jeune Polonaise qui s'est évanouie durant le cours.
Marie,
alors il paraît que chaque fois qu'Emmanuel Macron tape sur la première ministre polonaise, illibérale, les libéraux polonais aujourd'hui font des conférences sur Marie Curie. Il y a beaucoup de Slaves dans ces dispositifs destinés aux étrangers à la fin du 19e.
Effectivement, la majorité des étudiants étrangers qui arrivent en France à la fin du 19e siècle sont issus de ce grand courant migratoire des étudiants russes, polonais, dont beaucoup issus de la communauté juive d'ailleurs, qui sont discriminés dans leur propre pays et pour qui faire des études passe par l'immigration, passe par l'Europe et notamment par la France et la Sorbonne. Et Marie Curie, donc Maria Salomea Sklodowska, qui arrive en 1892, est l'incarnation de ce mouvement. Mais comme d'autres étudiantes de l'entre-deux-guerres, je pense à Natalia Tcherniak, Nathalie Sarraute, qui fait partie aussi de ce mouvement migratoire. Venue de l'Est.
Alors la Grande Guerre provoque une chute, encore que, et ça on le sait peu, des étudiants serbes sont accueillis. Plus tard, les étudiants américains, et ça sera après 1919.
Effectivement, la Grande Guerre est un moment où se met en place à la Sorbonne le premier dispositif d'accueil d'étudiants réfugiés. Et les premiers réfugiés que l'on accueille, ce sont les alliés serbes qui émigrent massivement, qui sont en exil massif. Et donc on va accueillir en France et notamment à la Sorbonne toute une série d'étudiants réfugiés serbes auxquels on va proposer des logements, des cours et un accompagnement. Et ça va être aussi l'occasion de construire le premier programme d'échange franco-serbe qui aura lieu à l'issue de la Première Guerre mondiale.
Et alors le programme architectural de la cité universitaire, il date d'après la guerre ?
Alors oui, effectivement, juste après la Première Guerre mondiale, dans l'objectif toujours de rayonner à l'international et créer la cité universitaire de Paris, dans un triple but, à la fois donc cette logique de rayonnement, cette logique aussi de disposer de logements pour accueillir les étudiants en plus grand nombre, et puis se greffe là-dessus un troisième argumentaire qui est l'argumentaire pacifiste, conforme à l'esprit de Genève à l'issue de la Grande Guerre, qui consiste à penser que la jeunesse mondiale, c'est dans ce cadre que la jeunesse mondiale pourra échanger, discuter, que pourra se construire la paix durable que l'on espère prospérer.
Interrogé en 1990, beaucoup plus tard, par Antoine Perrault sur France Culture, Petar Guberina, encore un Slave, c'est un Croate qui réside à la fondation Deutsche de la Meurthe, un des bâtiments pilotes de la cité universitaire.
Je voyais Paris seulement en lumière. Enfin, bien que c'était le jour, n'est-ce pas, pour moi, c'était une lumière absolue. Je me promenais à pied et un hasard a voulu que, dès le premier jour, j'avais rencontré à la même maison Deutsche de la Meurthe, deux personnes qui, après, sont devenues célèbres, même trois. Et ils étaient Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Pompidou. Vous voyez, c'était mes camarades de classe. On s'est trouvés là ensemble. Et surtout, avec Césaire et Senghor, je me promenais dans Paris, puisque je suis venu au temps des vacances, la première fois. Paris m'a attiré par la lutte démocratique contre le fascisme qui naissait. Donc, c'était 34, la première fois que j'étais à Paris. Déjà, Hitler était au pouvoir. Et les luttes des démocrates contre les partis, contre les mouvements antidémocratiques à Paris m'avaient enchanté. Et un peu sur Pompidou. Il était grand ami de Senghor. Et Senghor nous disait que Pompidou lui remettait, lui donnait tous les jours le Populaire, le journal du Parti Socialiste.
Donc au milieu des années 30, Pompidou qui assure la diffusion du journal socialiste pendant que François Mitterrand, jeune, manifeste sous des banderoles contre l'invasion métèque, faisons grève. Époque de tension très forte au quartier latin.
Effectivement, c'est un moment un peu ambivalent où d'un côté, un certain nombre d'initiatives se mettent en place pour, comme à la cité universitaire, la rencontre de ces étudiants étrangers. Donc là, on a le cas du Martiniquais Aimé Césaire, de l'Africain sénégalais Senghor et puis du Croate Guberina. Et puis en parallèle, effectivement, dans certaines facultés, notamment les facultés de droit et de médecine, qui sont les facultés où il y a le plus de tensions parce qu'il y a un débouché professionnel derrière, un certain nombre d'étudiants, mais c'est assez récurrent finalement depuis la fin du 19e, début 20e siècle, manifestent contre la présence des étudiants étrangers qui, disent-ils, leur volent des places, leur prend une place ensuite sur le marché du travail.
Vous parliez
des étudiants juifs de l'extérieur. En Roumanie, les étudiants juifs étaient soumis à un quota, devaient assister debout aux cours de médecine. Ils venaient faire leurs études de médecine à Paris, ce qui ne plaisait pas beaucoup à ceux qui pensaient déjà à un ordre des médecins.
Effectivement, ça participe effectivement de cette xénophobie et de cet antisémitisme qui court dans certains milieux étudiants, et c'est assez réel, assez vrai dans le Quartier Latin, où il est dit que les étudiants d'extrême droite sont ceux qui tiennent le boulevard Saint-Michel et qui manifestent justement à l'occasion de ces luttes contre, disent-ils, les métèques qui viennent leur prendre des places.
Alors je rappelle un cycle de conférences sur l'histoire de la Sorbonne samedi après-midi, ouvert au public dans le cadre des Journées du patrimoine. Une conférence de Guillaume Tronchet, qui est l'invité de la Marche de l'Histoire, et qui, quand il parlera du rôle des étudiants étrangers à Paris, en viendra à la période de l'après-guerre, où ceux qui sont d'origine coloniale ou d'origine maghrébine sont de plus en plus visibles. Peut-être les Kabyles fréquentent-ils dans les années 50-60, on va y venir, le café dans le 15e arrondissement de Slimane Azem. Alors c'est pas un étudiant, il est arrivé comme ouvrier, électricien dans le métro de la ville Lumière, il chante l'exil.
Seul je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir, j'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Triste sort des étudiants d'Algérie ou des anciennes colonies. Enfin, il y a la vie de Bohème quand même, la vie de Patachon. J'espère que vous ferez dans votre conférence, Guillaume Tronchet, sa part à la séduction du Quartier Latin. Parce qu'il n'y a pas que l'attraction de la Sorbonne.
Bah, tout à fait, ça participe aussi de l'image du Quartier Latin dans le monde, qui d'ailleurs peut dissuader un certain nombre de parents d'envoyer parfois leurs étudiants à la Sorbonne et leur préférer des universités de province, parce qu'ils ont peur que leur progéniture ne se dévoie dans les grandes fêtes étudiantes, dont toute une série d'affiches d'ailleurs se diffusent à l'international, et dans toutes ces associations donc étudiantes qui sont très actives depuis l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 50.
Alors si on parlait des associations des étudiants d'origine maghrébine ou d'origine coloniale, elles vont avoir un rôle politique très important. C'est notamment à partir d'elles qu'on a pu présenter Paris dans ces années 50-60 comme une des capitales du tiers-monde en ébullition.
Effectivement, c'est-à-dire qu'à toutes les populations d'origine russe, roumaine ou polonaise de l'entre-deux-guerres succèdent après la Seconde Guerre mondiale des populations majoritaires d'étudiants tunisiens, marocains et algériens et vietnamiens aussi, beaucoup, qui s'organisent beaucoup dans des associations à caractère nationaliste et qui luttent contre l'anticolonialisme. Et ce sont dans ces associations que va se nouer vraiment le ferment de la lutte pour les indépendances dans les différentes colonies.
Mais ensuite, quand les indépendances sont acquises, les pays continuent d'envoyer des boursiers à Paris, mais j'imagine qu'ils cherchent à les contrôler.
Alors bien évidemment, il y a un contrôle qui est effectué d'ailleurs des deux côtés. C'est-à-dire que les Français cherchent aussi à savoir à quel type de population leur est envoyé. Et l'instrument de la bourse est un bon moyen aussi de contrôler ces étudiants, puisqu'on peut contrôler leurs dossiers, on peut savoir d'où ils viennent, par où ils passent, où ils sont logés, où ils sont renvoyés. Et le contrôle se fait bien sûr des deux côtés, dans les deux pays, puisqu'on cherche aussi à envoyer un certain nombre d'élites étudiantes pour aller se former à l'international, et donc notamment à Paris, pour ensuite constituer les cadres dirigeants des nouvelles nations.
On va prendre un exemple, celui de l'association des étudiants Khmer, qui était financée par le régime du prince Sihanouk. On va l'entendre ici, il était encore roi Sihanouk arrivant à Paris, et imaginant que les étudiants qui l'amènent, eh ben, vont loger, bien sûr, sous l'égide de l'association, peut-être à la maison du Cambodge, à la cité universitaire.
Le garde-à-vous vient de retentir. Le roi descend, accompagné du général Alessandri, grand héros de la résistance française en Indochine, et de 7 étudiants cambodgiens venus en France poursuivre leurs études et marquer l'unité spirituelle entre la France et le Cambodge.
Paris n'est pas seulement pour nous, Cambodgiens, la capitale et le cœur de la France. C'est aussi le centre intellectuel du monde. C'est pourquoi j'ai profité de mon voyage pour amener avec moi quelques jeunes compatriotes qui vont poursuivre ici leurs études.
Mais c'est ainsi que Pol Pot, le futur leader Khmer Rouge, est ainsi parvenu avec une bourse de Sihanouk à Paris à la fin des années 40. Je lisais beaucoup. Je lisais des bouquins que j'ai achetés au bouquiniste des Quai de Seine. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Ma bourse n'était que de 1000 francs par mois. J'achetais des vieux bouquins qui coûtaient 20 ou 25 francs. Par exemple, la Grande Révolution française. Je le lisais sans comprendre grand-chose. Mais je lisais quand même. J'étais enthousiaste.
Conclusion après coup et pince sans rire de Sihanouk.
I used to say that if I want my students not to become, to get red, to become communist, I have to send them to communist countries.
Ils ont tous oublié leur français. Il dit que s'il les avait envoyés dans des pays communistes, ils ne seraient pas revenus communistes. Encore que Pol Pot a fait des séjours en Yougoslavie titiste et a trouvé ça très bien, comme le festival des jeunesses de la RDA à Berlin.
Ça montre à quel point, effectivement, la France et le Paris des étudiants étrangers est un Paris, dans ces années-là, extrêmement politisé pour certaines élites nationales, qui, des gens comme donc, Pol Pot, qui ne s'appelle pas Pol Pot d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle Salot Sar, qui, d'après les informations qu'on a moins étudié à Paris, à la Sorbonne, qu'auprès du parti communiste, et qui logeait d'ailleurs à la maison de l'Indochine, de la cité universitaire de Paris, et non pas à la maison du Cambodge, où, malgré tout, une fois que cette maison va être inaugurée, il y aura...
Sur le bec, j'ai entendu, oui.
Voilà, il y aura un troisième étage de la maison du Cambodge qu'on appellera l'étage rouge, où logeront tous les militants communistes qui sont en lutte contre Sihanouk, justement, au même moment, au Cambodge.
Alors, vous touchez de près les autorités universitaires à Paris, maintenant, Guillaume Tronchet, puisque vous êtes conseiller du directeur de l'École normale supérieure. Vous croyez, on va parler d'aujourd'hui, vous croyez que dans les stratégies des universités, on a le même intérêt pour les étudiants des pays pauvres que dans les années 60?
Alors, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Autant les questions internationales sont toujours aussi présentes, même si on ne se rend pas compte qu'elles étaient déjà présentes il y a un siècle, mais la nature des enjeux, effectivement, a pas mal changé. Il y a des héritages, il y a des continuités. Hein. La présence encore aujourd'hui de façon massive des étudiants de l'Afrique et du Maghreb en est en illustration. Mais il y a aussi des nouveaux enjeux, en tout cas des nouvelles choses qu'on observe. La première
Alors,
chose,
les enjeux, vous en donnez trois.
C'est ça. La première chose, c'est la massification des flux et des circulations étudiantes dans le monde. C'était 100 000 étudiants à peu près dans le monde en mobilité dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions, donc ça n'a plus rien à voir. Et cette nouvelle géographie des flux, bien évidemment, réorganise à la fois les stratégies des États, aussi bien émetteurs que ceux qui accueillent. La deuxième chose, c'est pour ce qui concerne le cas de la France, une nouvelle hiérarchie des nationalités accueillies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le Maghreb et l'Afrique noire sont très présents, ce sont les Asiatiques aussi qui sont de plus en plus présents, et notamment les Chinois, qui sont aujourd'hui la deuxième nationalité la plus représentée parmi les étudiants étrangers. Et puis enfin, une dernière chose qui est aussi caractéristique de notre époque, qui est la féminisation des effectifs d'étudiants étrangers, puisqu'aujourd'hui, 53% des étudiants étrangers en France sont des étudiantes, ce qui contraste bien évidemment avec la période précédente où les femmes étaient très présentes, mais moins nombreuses.
Oui, parce que vous insistez quand même sur le fait que c'est par les étudiants étrangers, on prenait le cas de Marie Curie, que les femmes se sont introduites plus nombreuses dans l'université.
Tout à fait, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les femmes n'étaient pas nombreuses, c'était 2% à peu près des effectifs à la fin du 19e siècle, mais parmi ces 2%, la majorité d'entre elles, les deux tiers, étaient des étrangères. Et donc c'est par les étrangères que l'accès aux études supérieures et que la féminisation de l'enseignement supérieur s'est faite en France. Ce sont les étrangères notamment qui ont été les premières à obtenir un doctorat de la Sorbonne. On citait le cas de Marie Curie tout à l'heure, mais l'anglaise Elisabeth Caret, par exemple, est la première femme à obtenir un doctorat en médecine en 1870. Donc c'est par les étrangères finalement que s'est opérée cette féminisation de l'enseignement supérieur français.
Mais revenons à ce qui est rupture, et parfois rupture brutale. L'arrivée des Chinois, est-ce que dans certaines universités, je ne parle pas évidemment de celle de Paris, elle n'est pas utilisée pour faire nombre, pour faire masse. Je me souviens d'une affaire qui s'était produite il y a une petite vingtaine d'années qui avait fait grand bruit à Nancy.
Bah alors comme dans tout domaine, il y a des excès bien évidemment, et donc la volonté aussi de faire gonfler les effectifs à certains endroits peut conduire à certains travers, c'est sûr. Mais cette présence des étudiants chinois, elle pose aussi un certain nombre de nouvelles questions, puisque ce sont souvent des étudiants qui ne parlent pas français, à la différence de d'autres étudiants étrangers qui, dans des périodes antérieures, pouvaient parler français, ou en tout cas le parlaient plus facilement qu'aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que se pose aujourd'hui la question pour l'accueil des étudiants étrangers, non pas tellement de cours de français qui se posent, mais de cours en anglais, d'où toutes les polémiques qui ont eu lieu ces dernières années autour de la création de cours en anglais dans les universités françaises.
C'est amusant ce que vous dites sur les étudiants qui seraient moins nombreux que les chiffres qui sont annoncés, parce que d'un autre côté, on dit qu'il y a 3200 bacheliers qui n'ont toujours pas de place à l'université, mais il arrive que les professeurs devant les nouveaux étudiants, dit c'est pas la peine de parler à ton voisin, il sera plus là dans 15 jours.
C'est tout le paradoxe auquel fait face aujourd'hui l'université française, qui est non seulement la démocratisation croissante, mais la massification des effectifs dans le supérieur et la tentation, effectivement, d'avoir le regard peut-être plus tourné vers l'international parfois, pour attirer les meilleures élites, les élites les meilleures des différentes nations avec lesquelles on veut être en discussion, en partenariat, que parfois à l'égard des étudiants français.
Mais on demande aux 3200 bacheliers qui n'ont pas trouvé de place alors que le bac est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, jusqu'à plus ample informé, des prérequis et les prérequis chez les étudiants étrangers.
Alors, il y en a eu. C'est-à-dire que quand on fait toute l'histoire des étudiants étrangers, il y a des examens qui sont mis à l'entrée de l'université. On leur demandait, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, de faire une dissertation en français. Aujourd'hui encore, dans certains établissements, on demande aux étudiants aussi étrangers de remplir un certain nombre de prérequis aussi. Donc, il ne faut pas laisser entendre que les étudiants étrangers auraient accès extrêmement facilement à l'enseignement supérieur, à la différence des étudiants français. Ce n'est pas du tout le cas.
Et puis, encore une question poil à gratter, celle des droits d'inscription des étudiants étrangers. Ils doivent payer plus que les Français, disent certains.
Alors ça aussi, c'est un long débat qui a été tranché pour la France en 1916, où parce que les étudiants étrangers, jusqu'en 1916, payaient des droits plus élevés que les étudiants français pour toute une série de raisons. En 1916, pendant la Grande Guerre, en plein moment où les conditions économiques étaient extrêmement difficiles pour le budget de l'État, la décision symbolique a été prise de mettre à égalité les étudiants étrangers et français dans le paiement des droits d'inscription. C'est comme ça depuis un siècle, mais il est évident qu'aujourd'hui, la question se repose de fait de la massification de ces effectifs et des besoins de l'enseignement supérieur.
Sur notre site, Guillaume Tronchet, on trouvera toutes les indications sur le cycle de conférences de samedi après-midi. Salle Louis Liard, là vous avez passé votre doctorat,
non? C'était à la Cité Universitaire.
Ah bah oui, à la Sorbonne, et à partir donc de, je crois, 14h30, des conférences de chacune une demi-heure, comme la marche de l'histoire réalisée par Audrey Ripouille. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco, avec Sacha Tropp à la technique.